talmudique. De nombreux textes fondateurs de différentes traditions religieuses, des tragédies grecques, certains contes orientaux, de multiples traités philosophiques et des textes de toutes les littératures du monde racontent le déterminisme inéluctable de la vie des hommes, de la prévisibilité de chaque histoire singulière et de celle des peuples, jusqu'à la prévisibilité du moindre souffle de vent et du trajet de la feuille d'automne qui sera emportée. Et pourtant, en même temps, chacun d'entre nous ressent au plus profond de lui-même un autre souffle, celui de la liberté de son action, de la liberté de ses choix, de penser, de décider, d'agir, de créer, d'aspirer au bien, mais aussi parfois faire le mal. Choix qui disent la grandeur de la liberté et la profondeur de notre responsabilité, de notre dignité. Alors naissent des questions, de grandes questions. L'homme est-il libre ou seulement le résultat de multiples causalités qui lui échappent ? L'homme peut-il faire des choix ou est-il une simple marionnette dans les mains d'un destin, d'un dieu ou des dieux? Des questions qui interrogent les concepts de liberté, de volonté, de libre arbitre, de choix, de destin aussi. Ces questions résonnent particulièrement dans la période d'état d'urgence sanitaire et ce nouveau confinement dans lequel nous sommes entrés, où nous devons choisir et accepter des choix que l'on fait pour nous et que l'on peut ressentir comme des violences faites à nos libertés. Nous sommes entrés dans un temps où nous devons choisir et parfois ne pouvons choisir. Il importe dès lors d'y voir plus clair et de tenter de mieux comprendre comment toutes ces questions peuvent être abordées non seulement dans l'urgence, mais dans le temps long d'une réflexion argumentée référée aux sources. Comme dit Éric Cobast, il importe de dégager l'origine et les enjeux des grands débats de notre temps, de montrer qu'ils s'enracinent dans des controverses souvent plus anciennes et qu'ils dépendent fréquemment de mutations intellectuelles engagées depuis des siècles. Il s'agit dès lors de rattacher nos réflexions à un fond culturel commun dont nous sommes, consciemment ou non, dépendants. Et il ne fallait pas moins le talent d'un chercheur qui a passé de très nombreuses années à réfléchir sur toutes ces questions pour nous aider à mettre de l'ordre dans ces problématiques dont l'Antiquité ne porte pas préjudice à leur actualité. Rabbin Rivon Krigier, bonjour.
Bonjour.
Rabbin Rivon Krigier, c'est un grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes rabbin de la communauté Hadat Shalom, docteur en sciences des religions de la Sorbonne, docteur honoris causa du célébrissime Jewish Theological Seminary of America et auteur de nombreux ouvrages. Votre dernier livre vient de paraître aux éditions In Press et s'intitule « Si Dieu sait l'avenir, sommes-nous libres d'agir ?» sous-titré « Omniscience et libre arbitre dans la pensée juive ». Rivon Krigier, ces recherches, vous les avez entreprises depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ?
Dès l'âge de l'adolescence, quand j'ai eu l'occasion pour la première fois de discuter de choses profondes avec une personne engagée dans la religion, je me suis aperçu, en lisant la Genèse, que Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera captive en Égypte durant 400 ans, et puis, à l'issue de quoi, le peuple qui aura asservi les Hébreux sera jugé et Israël sortira d'Égypte. Je vais poser la question en me disant, mais écoutez, il y a un problème. On a déjà annoncé à l'avance non seulement l'exil, mais aussi la punition qui sera infligée à ceux qui, dans le futur, opprimeront Israël. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Ça veut dire que tout est sous la fatalité. Et la personne qui était en face de moi a réfléchi et m'a dit « c'est une bonne question ». On en est resté là, mais cette question a continué à me préoccuper, à m'obséder. Et je me suis dit « il y a là un sujet capital, c'est celui de la liberté humaine, c'est celui de l'omniscience divine, Dieu qui prévoit et qui sait tout à l'avance ». Et par-delà même, une question encore beaucoup plus fondamentale, que font les religions quand elles sont face à une contradiction ? On veut croire à la fois à la perfection divine, Dieu sait tout à l'avance. On veut croire à la liberté humaine, mais ça ne colle pas l'un avec l'autre. Et ça, cette confrontation entre science et religion, entre foi et raison, c'est un sujet auquel j'ai voulu m'atteler.
Vous connaissez mon amour pour les citations et certaines reviennent régulièrement dans mes propos, car elles ouvrent le questionnement avec force et simplicité. Je pense à cette phrase de Wittgenstein, que m'avait fait découvrir un livre de Sophie Nordman, je cite « Il faut parfois retirer de la langue une expression et la donner à nettoyer pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. Comme vous l'écrivez vous-même très justement, Yvonne Crigier, nombre de confusions naissent du fait que les vocables d'une pensée ne sont pas explicitement définis et que d'une conception à l'autre, leur champ sémantique oscille. Fin de citation. Ainsi, il me semble important de préciser ce que l'on entend par déterminisme, fatalisme, préscience, omniscience, impassibilité, liberté, volonté, libre arbitre, liberté d'expression, liberté de conscience. Cette liste est longue et non exhaustive, mais commençons, si vous le voulez bien, par libre arbitre, Yvonne Crigier.
Ne faisons pas peur à tous nos auditeurs, parce que tous ces vocables sont expliqués clairement, j'espère, dans l'ouvrage. Mais vous avez raison qu'il faut les préciser. Et pour commencer, dans le langage courant, les gens utilisent souvent le terme de libre arbitre pour dire « j'ai mon libre arbitre », c'est-à-dire « j'ai ma liberté de penser, ma liberté de conscience ». Mais c'est autre chose, ça renvoie à ce qu'on appelle aussi la liberté d'examen, c'est-à-dire une liberté politique qui est celle de pouvoir s'exprimer. On a bien vu que dans l'actualité, les questions de la liberté d'expression est un point absolument fondamental. Là, quand on parle de libre arbitre, nous remontons à quelque chose qui se situe vraiment en amont de toute décision. Ce n'est pas un droit, c'est pas non plus un devoir, celui d'accéder à une émancipation, une liberté de son soi, comme les philosophes ont voulu le dire, de toutes les addictions par exemple. Le libre arbitre, c'est la capacité même à s'auto-déterminer, c'est-à-dire à être pleinement responsable de ses actes sans que les causes antérieures déterminent pleinement notre action. Et c'est quelque chose de très irrationnel. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de philosophes ont contesté l'existence même du libre arbitre et ont dit que c'était purement illusoire, même si on a l'impression que nous sommes les auteurs de notre décision. Et pourquoi ? Parce que ça suppose cette chose très mystérieuse, que nous soyons à l'origine d'une décision et que dans cette origine, il n'y ait pas de cause antérieure, comme si nous étions une sorte de cause première. Or, toute notre façon d'appréhender le monde, c'est de dire que à chaque effet, il y a une cause. Et dire qu'on puisse produire un effet sans qu'il y ait une cause antérieure, que nous soyons la source ultime, c'est quelque chose qui ne va pas de soi et même qui paraît complètement irrationnel. Et voilà pourquoi, depuis l'origine des temps, et surtout quand la philosophie va se développer, on va se rendre compte que la notion de libre arbitre est problématique. Et puis, si je peux encore ajouter un mot, le mot libre arbitre lui-même, dans ces deux termes qui ont été posés par saint Augustin, laisse entendre une tension. Parce que l'arbitrage, c'est l'usage de la raison. Donc ce sont des choses par lesquelles nous réfléchissons et notre raison impose un verdict. C'est le fruit d'un raisonnement, c'est presque de la logique que nous faisons, nous, parfois moins logique ou plus logique, mais nous raisonnons. Et la liberté, c'est pas un raisonnement, c'est une décision. Alors d'un côté, la raison nous impose certaines choses, notre raisonnement nous impose certaines choses, et la liberté est censée nous laisser le champ libre. Comment on tient à la fois cette liberté et cet arbitrage? Voilà toute la question qui se pose. Et donc, antérieurement à toute question théologique qui est par rapport au destin ou par rapport à Dieu, c'est la notion même de libre arbitre qui fait question et qui a été un des sujets passionnants développés dans la pensée à travers les âges et à travers les différentes expressions culturelles et religieuses.
Vous voulez dire que, avant d'agir, même si c'est très rapide, il y a plein de réflexions, de raisons que l'on met en avant, le pour, le contre, et tout à coup, il y a une sorte d'arbitrage qui fait qu'on va choisir telle ou telle chose et on va agir, mais qu'en amont, il n'y aurait pas de cause qui fait que nous agissions de telle ou telle manière.
Alors, je préciserai qu'il y a forcément en amont des causes conscientes et inconscientes qui pèsent sur notre décision, mais la croyance au libre-arbitre, c'est de dire que, nonobstant, malgré ces causes, il y a un moment dans notre esprit une capacité de mettre cela à distance, de neutraliser cela, et puis d'obtenir en nous, et c'est mystérieux, un surgissement qui va faire que notre conscience décide et tranche comme le ferait un juge.
Au libre arbitre ainsi défini s'oppose le déterminisme. J'aimerais que nous approfondissions cette problématique, Yvonne Crigier.
Nous savons qu'il y a l'inconscient, il y a les facteurs sociaux, il y a des tas de choses qui pèsent sur notre conscience. Et ça, c'est une question universelle. Mais nous avons aussi, et c'est par exemple Descartes qui l'a beaucoup souligné, cette intuition que dans toutes ces causalités, dans toutes ces chaînes, il y a tout au bout quelque chose qui est la conscience. Et parce qu'elle est en bout de chaîne, elle est face aux déterminations. Elle reçoit les déterminations, mais elle initie les déterminations. C'est que nous avons le sentiment d'être responsables. Le fait, par exemple, que nous portons des jugements. Nous blâmons quelqu'un, par exemple, s'il s'est mal conduit. Nous louons une autre personne parce qu'elle s'est bien conduite. Donc, ça veut dire que nous supposons qu'elle a la capacité de s'arracher, de se distancier par rapport aux divers déterminismes, sans quoi tout serait excusable, n'est-ce pas? Et précisément, attribuer aux individus l'idée qu'au fond, ils sont pleinement responsables, en tout cas, il y a une partie entre eux qui peut servir de gouvernail et dépasser les causalités qui pèsent. Cette croyance-là, elle est finalement ancrée presque universellement. C'est pour des raisons intellectuelles qu'on a du mal à imaginer que la volonté puisse échapper au déterminisme. Il y a ici une petite porte qui s'entr'ouvre, qui s'entrebâille sur la dimension mystérieuse qui est celle de l'âme. Appelons-le d'un autre nom, peu importe, mais cette capacité de la conscience de s'auto-déterminer.
Si je vous comprends bien, la responsabilité est du côté du déterminisme et pas du côté du libre-arbitre?
Alors, quand on parle de responsabilité, il y a d'une part une analyse qui doit être faite, un arbitrage qui doit être fait, et ça, on est du côté des déterminismes. Les opinions qu'on a, on les choisit pas au sens purement arbitraire, c'est-à-dire que j'ai envie d'être de gauche ou j'ai envie d'être de droite. On le fait parce qu'on fait une analyse, donc c'est le fruit d'une réflexion. Mais m'engager à gauche ou m'engager à droite, ça va être une décision de la conscience. Donc on voit qu'il y a un alliage entre l'arbitrage et la décision. On ne peut pas parler de libre-arbitre simplement comme une chose, mais comme une espèce de processus qui se passe à l'intérieur, où se mêlent et s'entremêlent le déterminisme et la liberté. S'il y a véritablement libre-arbitre, il y a véritablement émancipation, distance par rapport aux causes et capacité d'un acte initial, d'initier de manière purement originelle.
Un saut dans l'inconnu.
Oui, on peut dire ça, un saut dans l'inconnu, mais qui est fondé par l'arbitrage.
S'il vous plaît, mes amis, le président des États-Unis.
Merci. Merci infiniment. Merci. Je voudrais pouvoir rester plus que quelques minutes avec vous, mais les bureaux de vote dans l'Est ne ferment que dans une heure. Il reste donc une montagne de résultats électoraux à falsifier. Cela dit, avec toutes les personnes qui prennent part au débat, aussi bien politique que de société, à travers des émissions de radio, il est bon de se souvenir de temps en temps... Il est bon de se rappeler le redoutable impact... Le redoutable impact... Je suis désolé. Vous êtes le docteur Jenna Jacobs, n'est-ce pas?
Oui, monsieur.
Bienvenue à cette soirée.
Merci.
Le redoutable impact des ondes radio et de la façon dont ces discussions se répercutent ensemble sur nos débats nationaux, mais aussi manifestement sur... Excusez-moi, docteur Jacobs. Vous êtes docteur en médecine?
J'ai un doctorat.
Un doctorat?
Oui, monsieur.
En psychologie?
Non, monsieur.
En théologie?
Non.
En sciences sociales?
J'ai un doctorat en littérature anglaise.
Je vous demande ça parce qu'à la radio, on vous appelle pour avoir des conseils et comme dans votre émission, on vous appelle docteur Jacobs. J'étais en train de me demander si vos auditeurs s'y retrouvent et s'ils ne croient pas que vous avez fait des études supérieures en psychologie, en théologie ou en médecine.
Je suis persuadée qu'ils s'y retrouvent, monsieur.
Bien, j'adore votre émission. Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination.
Ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, monsieur le président, c'est la Bible.
Oui, c'est juste, dans le Lévitique.
18, 22.
Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage ainsi que les y autoriser dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. Elle est en deuxième année de fac, parle l'italien et débarrassait tous les jours la table quand c'était son tour. D'après vous, combien je pourrais en demander? Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question? Mon secrétaire général, Léo McGarry, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même ou puis-je le livrer à la police? Encore une question vraiment importante, parce qu'il y a beaucoup de mordus de sport dans cette ville. Toucher la peau d'un porc mort rend impur. Chapitre 11, verset 7 du Lévitique. S'ils promettent de porter des gants, est-ce que les Redskins peuvent continuer à jouer au football? Et l'équipe de Notre-Dame? Et celle de West Point? Tous les habitants de cette ville doivent-ils d'un commun accord lapider mon frère John pour avoir semé différentes semences dans le même champ? Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille car elle a osé porter des vêtements faits de deux espèces de tissus? Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous. Encore une chose. Au cas où vous prendriez ce banquet pour la réunion mensuelle de votre club d'ignares coincés, sachez tout de même que dans cette maison, quand le président se tient debout, personne n'est assis. Toby?
Oui, monsieur le président.
C'est comme ça que je l'ai eu.
Nous venons d'entendre un extrait d'un épisode de la série The West Wings, où le président des États-Unis montre avec humour et ironie que la lecture littérale des textes bibliques mène à la fois des violences et des absurdités, et un monde commun où il devient difficile de respirer, une façon de dire que les textes ont été révélés, non pour qu'on les impose, mais, comme dit le Talmud, qu'on les propose à l'interprétation, et comme le formulait si justement Paul Ricoeur, il faut avoir la liberté d'inventer pour inventer la liberté, corollaire d'une autre formule qui me semble possible, il faut avoir la liberté d'interpréter pour interpréter la liberté. La problématique du conflit entre déterminisme et libre arbitre, ou encore entre omniscience et libre arbitre, n'échappe pas, et bien au contraire même, invite à l'interprétation et à la liberté d'interpréter.
Oui, alors permettez-moi juste, au préalable, de dire rapidement combien j'ai été ému d'entendre un président avec autant de subtilité et capacité de prendre de la distance par rapport au texte et de rentrer dans l'herméneutique. Je ne sais pas s'il faut formuler une prière, mais en tout cas, c'était un passage tout à fait éloquent.
Comment, dans les textes bibliques, vous repérez cette contradiction entre l'omniscience de Dieu, Dieu qui sait à l'avance sa préscience, et ce libre arbitre, ce saut dans l'inconnu, qui est l'initiative d'une nouveauté absolue, Rabbin Rivon Krigier?
Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fameux texte bien connu de l'oracle qui est fait à Abraham, où la question est très clairement posée, parce que Dieu dit « Je sais, par exemple, que Pharaon ne laissera pas partir le peuple. S'il sait, ben alors le pauvre Pharaon, il n'a plus vraiment le choix de laisser partir ou non le peuple. » Il est d'ailleurs même précisé dans ce texte, Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Et pourtant, lui et son peuple subissent châtiment après châtiment pour le refus de laisser partir le peuple. Alors, ça c'est un exemple type dans lequel, à la fois dans le texte biblique et ensuite dans la littérature midrashique et la littérature rabbinique médiévale, on essaie de se confronter à la contradiction et on entre dans tout un monde d'une profonde intelligence et d'une profonde créativité qui est d'essayer de dire, voilà, on a une contradiction, qu'est-ce qu'on fait pour la dépasser ou qu'est-ce qu'on fait pour l'assimiler? Est-ce qu'on dit que oui, ben, il y a quelque chose de mystérieux, il y a une sorte de miracle, c'est que Dieu est capable de tout prévoir, il sait à l'avance que tout ce qui va se passer est néanmoins, les individus ont pleine capacité de choisir. Mais alors, on voit bien qu'on a renoncé à la logique et à la rationalité. Ou alors, on est, si je puis dire, dans une autre stratégie, qui consiste à dire l'homme est un être de raison. Si on accepte l'illogisme, alors on ne peut plus tenir aucun discours, puisqu'on peut dire tout et n'importe quoi. On se doit, pour penser, de rester dans les règles de la logique, en tout cas d'éviter la contradiction. On ne peut pas s'auto-contredire. Et donc, si c'est le cas, on est devant un terrible dilemme. Est-ce qu'il faut faire une concession du côté de la préscience divine, c'est le fait que Dieu sache les choses à l'avance, et dire que ce n'est pas tout à fait comme ça? Ou est-ce qu'il faut faire une concession du côté du libre-arbitre? Or, quand on regarde les textes bibliques et talmudiques, eh bien, on est un petit peu perplexe. Parce qu'on a des textes qui ont l'air de dire que Dieu sait tout à l'avance. Et puis aussi, on a des textes, tout à coup, où on voit que Dieu découvre. Un exemple, après la fameuse épreuve de la ligature d'Isaac, quand on voit qu'Abraham a été jusqu'au bout dans sa fidélité à Dieu, heureusement, le sacrifice n'a pas lieu commencé, Dieu dit « Maintenant je sais que tu crains l'Éternel ». C'est très précis. « Maintenant je sais ». C'est-à-dire que l'épreuve a prouvé quelque chose et maintenant Dieu sait. Alors, il y a des tas de commentateurs au Moyen-Âge qui disent « Mais c'est pas tout à fait ça ». Et en fait, ils savaient déjà. Mais c'est pas ce que dit le texte lui-même. Et on voit bien que dans la Bible, on dit clairement que Dieu découvre ou fait expérience de quelque chose et donc que sa connaissance est réceptrice des faits qui sont donnés. Et voilà, donc les textes fondateurs nous introduisent dans la complexité, ce qui va donner matière à réflexion, ensuite à tous les penseurs médiévaux et ensuite les penseurs modernes pour chercher de la cohérence dans tout cela.
Je pense à ce texte de Rabbi Akiva que vous citez, « Akol Tsafouy ve'Arochout Netouna » mérite d'abord une traduction en français et une interprétation.
Oui, vous avez raison, parce que cette formule que je vais traduire dans un instant a été jusqu'à aujourd'hui prise et considérée comme l'expression même du problème traité dans mon ouvrage. « Akol Tsafouy ve'Arochout Netouna » a été traduit et est traduit le plus souvent comme « Tout est prévu, sous-entendu par Dieu, mais la liberté est donnée ». Le seul problème, c'est que le mot « tsafouy » ne veut pas dire « prévu » au sens strict du terme, et que « hareshut » ne veut pas dire « liberté » ou « libre arbitre » au sens propre, et qu'on peut parfaitement traduire cette formule de la façon suivante. Tout est vu, tout est envisagé, et permission est donnée. Et là, ensuite, on a toute une flopée d'interprétations pour essayer de comprendre ça. Et l'une des plus intéressantes consiste à dire que Dieu observe ce qui se passe et l'homme a la responsabilité, a la permission d'agir dans un sens ou dans l'autre. Mais si Dieu observe, nous ne sommes plus dans la préscience, mais au contraire, dans une science qui s'informe de la liberté humaine. Et du coup, cette formule n'est absolument pas cette contradiction que nous évoquions tout à l'heure, mais quelque chose qui ne fait que accentuer la responsabilité humaine. C'est une façon de dire, il n'y a pas de zone de non-droit, puisque Dieu observe, he's watching you, il vous observe à chaque instant, mais non pas pour avoir une emprise sur vous, mais au contraire, il vous observe à chaque instant pour vous rappeler à l'ordre que vous êtes constamment en position de responsabilité. C'est un très beau message, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait de la formule. Et en fait, dans le livre, je développe, et je n'ai pas le temps de le faire ici à la radio, les diverses interprétations qui existent. Et nous avons de bonnes raisons de penser que très probablement, Rabbi Akiva n'avait pas l'intention par cette formule de poser le paradoxe. Et en tout cas, il ne le traite en aucune façon. On ne traite pas dans le Talmud de ce paradoxe.
Mais en même temps, on a l'impression, en vous écoutant, que la traduction possible de cette formule serait la traduction du libre arbitre à Kol Tsafouy. Tout est envisagé, toutes les possibilités sont envisagées. Et puis tout à coup, il faut faire un arbitrage dans ces différentes possibilités et choisir, c'est-à-dire décider d'agir dans ce saut dans l'inconnu, de prendre plutôt cette option que cette autre option à Kol Tsafouy. Tout est envisagé, va'Arochout Netouna, et le droit est donné de pouvoir agir d'une certaine façon ou d'une autre.
À Kol Tsafouy, ça veut dire aussi tout est observé, et c'est peut-être le sens premier. Envisager, oui, et d'ailleurs certains penseurs médiévaux vont développer cette idée que l'omniscience, ce n'est pas uniquement la connaissance de ce que tel individu va faire à tel moment, mais c'est la connaissance qu'on appelle hypothétique, c'est-à-dire de toutes les possibilités qui existent. Mais si on s'en tient uniquement à cette dernière lecture, si la science de Dieu, c'est la connaissance uniquement de tous les possibles, alors, c'est intéressant, mais la science de tous les possibles, ce n'est pas la science précise de ce qui va se passer. C'est comme si on disait Dieu connaît le jeu des échecs, mais il ne sait pas comment la partie va se dérouler parce qu'il ne sait pas à l'avance ce que l'adversaire va jouer comme coup. Vous voyez la différence? C'est dans ces mailles que les penseurs au Moyen-Âge tentent de se débrouiller.
À cette question, les maîtres de la philosophie juive ont répondu différemment. Et si vous évoquez de nombreux commentateurs comme Saadia Gaon, Chai Gaon, Bachia Ibn Pakuda, Judah Levi, Ibn Ezra et Ibn Daoud, leurs efforts pour résoudre l'antinomie du déterminisme et de la liberté restent encore balbutiants. Vous présentez alors et approfondissez les solutions de trois figures majeures de la philosophie du Moyen-Âge, Maïmonide, Gersonide et Chasdaï Kreskas, trois paradigmes de conjonction, dites-vous, visant à lever l'énigme, trois stratégies de compatibilité, précisez-vous encore. Comment ont-ils réussi ce tour de force et qu'est-ce que vous appelez des paradigmes de conjonction? Commençons par Maïmonide, si vous le voulez bien, Rabbin Rivon Krigier.
Peut-être avant, si vous le permettez, de parler de Maïmonide, je voudrais dire que ces trois penseurs ont en commun d'avoir pris pour acquis qu'il n'était pas possible, rationnellement, de concilier omniscience et libre arbitre sans que l'on fasse quelques concessions pour rendre compatibles ces notions. Et c'est ce qui caractérise leur audace et l'importance de leur pensée. Maïmonide lui-même, on va dire, il a une double stratégie. Parce que il s'inquiète de révéler une vérité qui risque de heurter. Donc il a un double discours, on va dire, il a ce qu'on appelle le discours exotérique qui s'adresse à un large public et dans lequel, grosso modo, il dit, en fait, il y a une contradiction entre omniscience et libre-arbitre, mais comme on ne connaît pas l'essence de Dieu, on ne sait pas ce que Dieu est, on ne sait pas comment il connaît, donc il faut accepter par foi, en somme, que là-haut, au-delà des capacités humaines, omniscience et libre-arbitre peuvent parfaitement s'harmoniser. Mais quand on creuse, quand on rentre dans la strate plus intérieure du livre, ce à quoi Maïmonide lui-même invite, il avertit en tête de l'ouvrage qu'il s'adresse à deux types de publics. Et il invite ceux qui sont les plus érudits à rentrer dans les secrets, les arcanes du livre. Quand on rentre et on fait cet exercice, on se rend compte qu'en réalité, chez Maïmonide, la science de Dieu n'inclut pas les détails. Tout ce que Dieu peut connaître, c'est-à-dire les généralités, les détails, c'est quelque chose de futile. Et par conséquent, il y a des zones d'ombre ou des zones de hasard qui n'entrent pas dans la science divine. Et du côté du libre-arbitre, là aussi, on se rend compte qu'au Moyen-Âge, et dans sa conception à lui, on n'échappe pas complètement à la causalité. Et donc, ce n'est pas un libre-arbitre au sens de la pure autonomie, mais plutôt à une capacité à réagir et à se déterminer. Quand on passe un siècle plus tard, c'est-à-dire nous sommes ici avec Maïmonide au XIIe siècle, quand on passe au XIIIe siècle avec Guerchonide, on a un autre parti pris, c'est celui de dire que Dieu ne sait pas tout à l'avance, il ne sait que ce qu'il oriente grâce au déterminisme astral, par l'astrologie si vous voulez, parce qu'il préfigure, et que dans cette large préfiguration, il y a des capacités de l'homme à échapper au déterminisme lorsqu'ils sont informés des conjectures ou alors quand ils sont suffisamment mûrs pour prendre des décisions qui les empêchent de tomber dans des pièges funestes. Donc lui, il fait le parti pris qu'il y a une véritable liberté, mais que la préscience ne comporte pas cette connaissance qui touche au choix des personnes.
On peut dire que cette préscience divine, c'est en fait les lois de la nature. Vous parlez des lois des astres, mais ça peut être les lois de la nature. Et donc, si l'homme s'instruit, la science de l'homme lui permet d'accéder à une forme de liberté contre le déterminisme des lois qui ont été introduites dans le monde.
Alors, sans aucun doute, on peut dire cela, qu'il y a dans l'expérience de liberté quelque chose qui est lié à la maturité, la maturité et l'érudition. Mais il y a aussi un débat dans la philosophie, de savoir est-ce que parce qu'on est plus érudit, on fait vraiment des actes qui soient nécessairement plus moraux, plus mûrs, c'est parfois loin d'être évident. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez Guerchonide, mais déjà chez Maïmonide aussi, parce que la liberté, c'est lié à la capacité de se défaire justement des déterminismes de la nature. Et donc, plus quelqu'un se développe sur un plan intellectuel, il est censé en avoir les capacités. Mais chez Guerchonide, il y a une vraie liberté d'échapper au déterminisme astral. Quant à Hasdai Kreskaz, qui arrive, lui, un siècle encore plus tard, on est dans une révolution tout autre, où on met en cause des notions de la pensée d'Aristote qui est prévalente au Moyen-Âge. Et lui, il conteste l'idée que Dieu ne connaît que les principes ou les généralités, et il pense que Dieu connaît absolument tout, dans les détails, l'infinité des détails. Il intègre la notion d'infini. C'est une des grandes révolutions intellectuelles qui se passe en son temps au XIVe siècle. Et dès lors, la liberté est aussi connue de Dieu. Et donc il n'y a pas de véritable autonomie dans le sens où Dieu lui-même sait à l'avance absolument tous les choix qui vont être faits, et forcément l'homme choisira ce que Dieu sait dans tous les détails.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre l'omniscience de Dieu et la liberté de l'homme, sauf que l'homme n'a pas de liberté.
On peut dire ça comme ça, c'est quelque chose qui paraît effectivement une sorte d'entourloupe, mais c'est exactement ce que va dire ensuite Spinoza, par exemple, ou Leibniz. Ils sont convaincus qu'il y a une liberté parce qu'on peut réagir à ce qui arrive, mais ce qui arrive, on le réagit en fonction de l'évaluation de la situation. Et cette évaluation, Dieu la connaît. Et donc, par conséquent, tous ces actes qui nous paraissent être des actes de liberté, en réalité, sont déjà parfaitement préfigurés par Dieu. Et c'est pourquoi on peut considérer que pour ces penseurs, et pour Kreskaz en l'occurrence, le libre-arbitre au sens propre est quelque chose de purement illusoire. C'est très audacieux, à l'intérieur de la pensée juive.
Merci Rabbin Rivon Krigier pour cette belle leçon de philosophie. Mais l'histoire n'est pas terminée car la philosophie ne s'arrête pas au Moyen-Âge. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation et découvrir quelles sont les autres solutions qui ont été proposées à cette grande question de la liberté et de sa rencontre avec le déterminisme et l'omniscience divine et comment ces réflexions offrent un éclairage intéressant sur notre actualité. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions InPress, « Si Dieu sait l'avenir, sommes-nous libres d'agir ?» sous-titre « Omniscience » et libre arbitre dans la pensée juive. Merci encore, Rabbin Rivon Krigier.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Tahar Bouklifa, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques concernant notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudic. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.